Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence pour le 192e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Presque toutes les saisons de musique à Toulouse et autour ont désormais connu leur épilogue, à l'exception notable de l'Orchestre National du Capitole, dont les concerts se poursuivent jusqu'au 17 juin. La programmation 2022-2023 a d'ailleurs été dévoilée et présentée hier à la Halle aux Grains, la première de la presse au Kiev. Mais je partage cette bonne nouvelle avec tous ses fans. Tougan va revenir diriger l'orchestre en tant que chef invité à l'occasion de 3 concerts la saison prochaine. Nous en reparlerons bientôt à Mélomanie. Tout doucement donc, nous basculons vers la période des festivals d'été, ainsi que vous nous l'annoncions lors de nos précédents numéros. Cela dit, il y a eu récemment plusieurs concerts sur lesquels nous souhaitions revenir, et il en reste encore quelques-uns ces prochains jours. Pour commenter et vous présenter tout ça, j'ai invité une nouvelle fois Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. La première partie de l'émission est aussi copieuse que variée dans les genres que nous allons y aborder. C'est parti pour notre traditionnelle rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, merci d'être fidèle.
Bonjour
Eric. De Mélomanie, il y a 3 semaines, vous vous en rappelez parce que vous étiez présent, nous avions reçu Virginie Baillet d'Artigalong, directrice de production de Camon en musique, avec qui nous avions présenté la 5e édition de ce festival. Dans la programmation, il y avait un concert donné par les Sacboutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse. C'était le samedi 14 mai. À l'église de Camon. Le programme était intitulé « Fête vénitienne » et consacré à des canzoni composées par Giovanni Gabrielli à la fin du XVIe siècle pour la basilique Saint-Marc de Venise. Les Sacboutiers étaient dirigés en la circonstance par la bassoniste Sophie Dervaux, c'était aussi une première. Et Serge, vous avez assisté au concert.
Oui, alors l'espace de ce samedi soir, Camon est devenu la Venise de l'Ariège, puisque la petite église de Camon, charmante, comme tout le village d'ailleurs, je voudrais préciser que vraiment c'est un village à visiter.
C'est très joli.
C'est très très beau, l'architecture est magnifique, à taille humaine, c'est vraiment très beau. Donc à l'occasion des floralies de Camon, puisque Camon a une fleur fétiche qui est la rose, eh bien, il y a ces manifestations qui sont organisées, des manifestations musicales. Donc le concert d'ouverture en quelque sorte, le samedi soir, avait lieu dans cette petite église qui est un peu devenue la basilique Saint-Marc de Venise, mais à échelle réduite évidemment. Et donc les Sacboutiers étaient là en nombre, puisqu'il y avait, quand même 13 musiciens, il y avait du monde, il n'y avait pas que les habituels des Sacboutiers, il y avait aussi de jeunes musiciens qui travaillent avec les Sacboutiers. Et donc les acteurs de l'événement musical, il faut rappeler qu'il y avait parmi ces acteurs Émeric Fournes, qu'on connaît bien à Toulouse, puisqu'il a longtemps été le trombone solo de l'Orchestre National du Capitole, et qu'il est maintenant trombone solo de l'Orchestre National de Lille. Donc,
C'est vraiment expatrié.
Ah oui, il s'est expatrié très loin.
Et il est originaire de Camon.
Exactement.
S'il y a ce festival là-bas, ça lui doit beaucoup, à lui et à sa mère, je crois.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment... C'était un beau programme, un programme qu'on peut qualifier de festif, avec des œuvres, essentiellement des œuvres de Giovanni Gabrielli, et empruntées à 2 recueils qui, tous les deux, possède le titre de Sinfonie Sacrée. Alors, il y a 2 recueils, un qui date de 1597, un de 1615, et ce sont des pièces, dont des canzones et sonates aussi, à 2 ou 3 chœurs instrumentaux, avec des chœurs très variés. Quelquefois, ce sont des chœurs homogènes, rien que des cuivres, quelquefois, il y a rien que des cordes avec le basson et l'orgue pour le continuo, évidemment. Et donc, vraiment, un beau concert avec une splendeur sonore que l'acoustique de l'église, vraiment...
Sublime.
Oui, on peut dire. C'était très, très beau. Il y avait certaines pièces, d'ailleurs, à 3 chœurs, avec un chœur à l'arrière, 2 chœurs à l'avant. Et donc, la directrice de ce concert, donc, qui était là pour la première fois, qui dirigeait les Sacboutiers, comme vous l'avez dit, Sophie Dervaux, qui est une grande musicienne, eh bien, elle a dirigé ça avec beaucoup de talent, beaucoup d'élégance de précision, elle avait vraiment de grandes qualités. Les musiciens étaient ravis de sa direction.
Oui, parce que c'est une grande bassoniste, c'est une grande musicienne, comme vous venez de le dire, qui fait une superbe carrière en tant qu'instrumentiste et qui s'essaye à la direction d'orchestre depuis quelques temps et apparemment avec beaucoup de bonheur.
Ah oui, 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 ça marche très très bien. Elle a été à la Philharmonie de Berlin et elle est à la Philharmonie de Vienne. Pas de petits orchestres de province. Hein, donc
non, ça c'est une vraiment, instrumentiste vraiment très réputée.
Hein. Absolument. Et donc là, il y avait donc la série des cornets à bouquin, Jean-Pierre Cagnac, Clément Formel, Mathieu Jean Humbert. Et puis il y avait la basse des cornets à bouquin, le serpent, qui était joué par Pierrick Fournès, le frère d'Emeric. Et puis il y avait quatre sacs-boutes quand même, Daniel Lassalle, Emeric Fournès donc, François Chapuis et Nicolas Trèpe. Puis il y avait des violons, il y avait trois violons, Julie Rivès, Marie Bouvard, Jennifer Luther. Et puis il y avait le continuo avec le basson de l'obligatoire Laurent Lechenadec et l'orgue positif de Yasuko Bouvard. Donc, de très belles pièces qui se succédaient avec des humeurs différentes. Certaines pièces à petit effectif, certaines pièces étaient jouées à 3-4, hein, et puis d'autres avec l'effectif complet. Donc, un très beau moment. Alors, parmi les pièces jouées, il y avait donc la première flamboyante, la canzone Duodecimi, Toni, in écho. Alors, il y a beaucoup d'œuvres en écho, évidemment. Ça, c'est l'architecture de la basilique Saint-Marc de Venise qui inspirait Gabrielli pour écrire des pièces en écho. Il y a eu des tas de nombreuses pièces, avec notamment la dernière qui était Canzone non toni à 12 cette fois, et donc qui a été d'ailleurs bissée à la fin du concert. Mais parmi les canzones, il y avait une pièce qui n'était pas de Gabrielli, qui était de Cesare, un autre grand compositeur, une canzone en écho avec simplement trois cornets et puis un basson. Et donc avec des échos, de double écho en quelque sorte. Hein. Donc c'était vraiment un beau moment. Ça a beaucoup plu. L'église des Plaines, il est vrai qu'elle n'est pas très grande.
Il y a 200 places à peu près.
Oui, hein. Mais donc ça a eu un grand, grand succès. Et donc peut-être qu'ils reviendront une autre fois pour ces fêtes de Camon. Des belles fêtes qui se poursuivaient le lendemain hein, également, avec notamment l'intervention de Sophie Dervaux en tant que bassoniste cette fois.
Oui, c'était un très beau programme tout au long de ce festival. Eh bien, voici, en parlant de programme, un extrait de ces fêtes vénitiennes tiré du CD Venise sur Garonne, enregistré naguère par les Sacboutiers, la canzone CH195 numéro 1 de Giovanni Gabrielli. La canzone CH195 numéro 1 de Giovanni Gabrielli, interprété par les Sacboutiers, un extrait de leur CD Venise sur Garonne, enregistré il y a quelques années. Et nous allons rester avec les Sacboutiers qui sont très actifs en ce mois de mai, puisqu'ils étaient encore en concert la semaine dernière, jeudi 19 mai, à la Basilique Saint-Cernin de Toulouse. Ils accompagnaient le chœur Tempus 21 dans un programme intitulé « Les 3S ». Vous étiez, cela va sans dire, parmi le public présent à ce concert, Serge. Rappelez-nous d'abord qui sont les 3S à qui il était rendu hommage lors de ce programme, redonné, je le précise, le lendemain en la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi.
Oui, alors, trois compositeurs dont les noms commencent par S. Il y a Heinrich Schütz, Samuel Scheidt et Johann Hermann Schein. Donc Schütz, Scheidt et Schein. Alors, il ne faut pas confondre.
Ce n'est pas facile à enchaîner, c'est oui, les oui, trois de... prononciations.
Oui, oui, oui. Donc trois compositeurs allemands, évidemment, du monde germanique baroque. Hein.
Du début du baroque, plutôt, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
Mais très important à leur époque.
Hein. Ah, absolument, ben oui, c'est vraiment...
Notamment Schütz.
Ils ont été presque contemporains de Monteverdi, quand même.
Oui, hein. Mais... oui, c'est vraiment le début du baroque. Hein.
Oui, oui, ah, oui, oui, complètement. Oui, oui, c'est vraiment la Renaissance, quoi, en quelque sorte. Et donc, il y avait à la fois des pièces vocales et des pièces instrumentales a cappella, chœur seul, instrument seul, et puis les deux à la fois, évidemment, c'était l'essentiel du programme, avec des pièces magnifiques, avec notamment la première qui était un motet funèbre pour Johann Hermann Schein, mais signé de Schütz. Et donc, ils étaient amis. Hein. Et puis, ils étaient du même âge, puisqu'il ça diffère d'un an entre les trois compositeurs, donc leur date de naissance. Donc, c'était des musiciens très proches. Donc, il y avait d'abord cette pièce, « Das ist jegewisslich wahr ». C'est une pièce à la fois dramatique et qui enchaîne sur une sorte de sérénité, puisque c'était pour, en quelque sorte, un hommage à Schein qui venait de disparaître. Et puis il y avait donc deux pièces instrumentales, purement instrumentales, l'une de Scheidt qui s'appelle « Onarbach Roland », qui est souvent jouée par les sacboutiers, et puis également de Scheidt, une canzone « Bergamasca Anglica », qui est aussi une sorte de pièce signature des sacboutiers. Et enfin, il y avait également un chœur a cappella de Schein, qui est « Die mit Tränen sehen ». Alors, c'est très triste, hein, ça évoque les larmes, évidemment. Et ça, c'était la première partie du concert, les quatre pièces assez courtes. Et la deuxième partie était une pièce très consistante, la « Musikalische Exequien », une messe d'Heinrich Schütz. Vraiment une merveille à découvrir. Une pièce avec une forme très originale, très particulière, avec le chœur, évidemment, et les instruments, avec des passages a cappella pour le chœur, des passages accompagnés par, évidemment, les instruments. Et c'est une messe pour les funérailles d'Henri II de Reus-Guerra, donc qui est intitulée « Musikalische Exequien ». Donc, ça date de 1635. Et forme complexe avec... Alors ça, c'est vraiment prémonitoire, une intervention périodique d'un récitant qui semblerait annoncer les récitants des passions de Bach, les évangélistes. C'est vraiment à l'avant-garde, en quelque sorte, hein, de cette période. Et il faut signaler que dans ce rôle stratégique, qui est dit intonatio pendant le déroulé de la messe, est tenu par quelqu'un que l'on connaît bien, qui s'appelle Clément Lanfranchi.
Vous posez la question.
Oui, oui, Clément Lanfranchi.
On l'a reçu à plusieurs reprises.
Qu'on a reçu et qui a créé ce bel ensemble baroque baptisé le Consort Apollon, qui a donné plusieurs concerts et qui vraiment promet un bel avenir pour cet ensemble. Donc, il était le, entre guillemets, récitant ou évangéliste, et vraiment, il a fait ça avec beaucoup de goût, beaucoup de talent.
Mais parce qu'on le connaissait comme claciniste, oui, organiste, même pianiste, chef d'orchestre, mais aussi, il chante remarquablement bien.
Absolument, absolument. Donc, bravo à lui. Et alors, cette belle messe, elle se compose en fait d'un kyrie, d'un vaste gloria et de deux courts motets. C'est très particulier comme structure, avec des interventions du chœur très, très courantes et très belles. Alors, le chœur est un chœur de bénévoles, un chœur amateur, avec certains professionnels quand même, parmi, notamment, notre ami Clément Lanfranchi. Et puis, donc, avec une progression vers cette fin qui est d'une grande beauté. Alors, d'une messe funèbre, mais un peu détachée, en quelque sorte, des caractères dramatiques. Hein. Donc... on a eu droit à ces pièces et à un bis que, alors le chef de chœur dont il faut parler, qui est Emmanuel Blondel, a annoncé un bis, un hommage au sac-boutier, c'était sympathique, de Francisco Guerrero. Alors, rien à voir avec le monde germanique. Oui. C'était un motet, Ave Virgo Santissima, donc qui était joué par l'ensemble des intervenants. Vraiment un très beau moment, hein, et dans l'acoustique de Saint-Sernin, ça passait très bien.
Oui.
Ah oui, c'était vraiment une musique composée pour ce type d'acoustique très généreuse. Hein. Alors, il y a eu ce bis-là, et puis ensuite, il y a eu une intervention un peu particulière et d'actualité, puisque le chef de chœur a annoncé que pour un hommage au peuple ukrainien, il a harmonisé un chant populaire ukrainien, et il l'a harmonisé à la fois pour les instruments et pour le chœur, et il a même demandé au public qu'il le pouvait, de chanter avec eux, puisqu'il l'a répété 4 fois. Donc, une partie du public a essayé de chanter du mieux possible cet hymne, et même s'est levé pendant le chant de cet hymne, de ce chant ukrainien. Donc, un beau moment qui s'est déroulé dans cette belle basilique Saint-Sernin.
Nous allons écouter un air extrait, une pièce extraite du programme du concert des Sac-Boutiers et du chœur Tempus 21, la Symphonie Sacrée, opus 6 d'Heinrich Schütz, la 8e pièce, Adjuro vos filiae. La Symphonie Sacrée opus 6 d'Heinrich Schütz, la 8e pièce Adjuro vos filiae, interprétée par les Sac-Boutiers, un extrait d'un CD paru il y a quelques années. Nous allons complètement changer de registre et d'instrument en passant des cuivres à la guitare solo classique, encore que le terme classique ne soit pas totalement adéquat en l'espèce. Vendredi dernier avait lieu le dernier concert de la saison Toulouse Guitare. Il s'agissait en fait d'un récital de Gaël Solal à l'église Saint-Jérôme. Et la guitariste marseillaise nous a vraiment régalé, Serge, on va y revenir. Mais avant son passage, il y a eu, comme le veut la tradition de Toulouse Guitare, une première partie donnée par un tout jeune musicien. Et là, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que nous avons découvert un artiste dont on devrait entendre parler dans les années à venir. Comment s'appelle ce guitariste plus que prometteur qui a ébloui tout le public présent ce soir-là ?
Absolument, et il s'agit de Raphaël Léger, qui est étudiant au Conservatoire Rayonnement Régional de Toulouse, dans la classe de Laurent Vivet, et il a 18 ans. Et bien, du haut de ses 18 ans, il a donné des leçons de maturité et de musicalité surtout. Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il fait de la musique avec son instrument et pas l'inverse. C'est pas la gloire de la guitare, c'est à la gloire de la musique. Et vraiment, c'était un jeu raffiné, très beau. Alors son programme commençait par la suite Compostelana du compositeur catalan Frederico Mompou, donc avec une délicatesse impressionnante. Et puis ensuite une fantaisie hongroise de l'autrichien Johann Caspar Merz, à la fois nostalgique et pleine d'ardeur, et puis une éloquence étonnante dans le prélude allemand de Sylvius Leopold Weiss, qui était compatriote contemporain et même rival de Johann Sebastian Bach quand même. Et on retrouve un peu le style de Bach dans la pièce qu'il a jouée. Et il a terminé par le Zapateado de Regino Sainz de la Massa, qui est, comme son nom l'indique, espagnol, et qui réunit un peu les dieux de la danse et du chant dans cette pièce ardente. Et il a eu un vrai triomphe, il a été très applaudi par toute la salle, hein, donc, et c'était mérité.
Oui, moi ce qui m'a frappé d'emblée, c'est le son.
Ah,
vraiment,
oui, oui.
Un son tout de suite, on sent, là il y a quelque chose qui se passe.
Oui, oui.
Et puis effectivement, la musicalité, c'est un vrai musicien. Comme vous dites, il fait de la musique avant tout, il ne joue pas seulement de la guitare.
Oui, exactement.
Et en plus, il s'est illustré avec des compositeurs assez différents, hein,
oui.
Espagnols, autrichiens. Vraiment, il a été très applaudi parce que, attention, le public de Toulouse Guitare, c'est un public de connaisseurs.
Oui.
C'est vraiment les amoureux de la guitare qui viennent. Il y a beaucoup de guitaristes d'ailleurs dans la salle. Jeunes, moins jeunes, amateurs, professionnels.
Ouais.
Donc, on leur met pas plein les oreilles comme ça aussi facilement. Il a été effectivement très, très, très applaudi. Il a bien mérité qu'on l'écoute dans cette émission. Ce jeune futur grand de la guitare, Raphaël Léger, interprète ici le Caprice Opus 50 de Johann Caspar Merz. Caprice, opus 50 de Johann Caspar Merz, joué par Raphaël Léger, un jeune guitariste dont il faut retenir le nom et qu'on devrait revoir rapidement dans les salles toulousaines, y compris à Toulouse Guitare. Après cette très belle première partie, la vedette de la soirée est rapidement arrivée sur scène. Gaël Solal a donc pris la suite pour donner un programme principalement constitué de pièces extraites de son CD Touhou, paru en 2020, un programme de musique de compositeur brésilien, dont la figure centrale était Heitor Villa-Lobos, Serge, mais il n'y avait pas que lui. Hein.
Non, il n'y avait pas que lui, mais c'était un peu le fil rouge de tout son programme.
Bah, le titre de l'album lui fait directement référence,
oui.
Puisque c'était le surnom que lui avait donné sa mère.
Touhou. Oui, Touhou, qui signifie Petite Flamme,
voilà,
nous
petite
a-t-elle
flamme.
Dit.
La mère de Villa-Lobos l'avait surnommée comme ça.
Oui, voilà. Elle a beaucoup parlé, elle a présenté en même temps.
Elle est très, très à l'aise.
Beaucoup
elle
de talent.
Est aussi à l'aise pour parler en public que pour jouer.
Ah oui. Bon, c'est une grande guitariste, évidemment. Hein. Un son magnifique, une virtuosité, une technique qui est tellement parfaite qu'on l'oublie, ce qui est bien.
Ben c'est ça,
pour
le but, c'est
à la musique.
Hein.
Donc, c'était très bien. Et elle a commencé d'ailleurs par du Villa-Lobos avec Mazurka Choro, pleine de couleurs, à la fois de nostalgie et de rythme chaleureux. Et puis le chaud numéro un, alors toute la série des chauds, il y en a pas mal, hein, de Villa-Lobos.
Ça, c'est
de...
typiquement brésilien, le chorro.
Chorro, c'est le pleur.
Voilà, hein. Le pleur.
C'est, donc, c'est quelque chose qui a à voir avec...
L'âme brésilienne.
La saudade aussi. Voilà, saudade, c'est encore un autre terme qui ne peut pas être traduit en français, d'ailleurs, puis c'est à la fois nostalgie, tristesse, manque de l'absent, enfin, etc. Et donc, c'était très bien. Alors, il y avait des œuvres, donc, de Villa-Lobos, et puis d'Ernesto Nazaré, un autre grand compositeur brésilien, d'Antonio Carlos Jobim, qu'on connaît bien chez nous.
Le père de la bossa nova.
Et oui, bien sûr. Et avec aussi Egberto Gismonti, qu'on a vu aussi en France. Et puis un autre compositeur qu'on appelle Garoto, c'est pas son vrai nom. Garoto, ça veut dire petit garçon. Hein. Et puis trois compositeurs qui ont compté pour elle, nous a-t-elle dit, avec notamment Roland Dienz, qui a été son professeur.
Oui, il a compté vraiment beaucoup, puisque oui, effectivement,
énormément.
C'est celui. Alors, non seulement qui a été son professeur, mais je crois qu'à un moment donné, l'a un petit peu remotivé. Tous les musiciens, je pense, beaucoup passent par là, à un moment où on doute, où on s'intéresse à d'autres choses, et on lâche un peu la musique. C'est quelqu'un qui lui a vraiment remis le pied à l'étrier.
Oui.
Et apparemment, elle en garde une grande gratitude à cet homme.
Oui, elle a vraiment... Elle lui a rendu hommage, un hommage presque officiel.
Appuyé, vraiment.
Avec... donc deux pièces de lui, la Saudade numéro 3, alors dans un style très actuel, hein, très moderne, hein.
Oui.
Ça n'avait rien à voir, c'était vraiment de la musique contemporaine, hein. et également un hommage à Villa-Lobos, donc qui la quatrième partie de cet hommage qui justement s'appelle le Touhou, donc qui a porté ce nom. Et puis entre les deux pièces de Dienz, il y avait une pièce virtuose de Baden-Powell. Évidemment.
Célèbre.
Le célèbre Baden-Powell, qui s'appelle berimbau.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que le berimbau? C'est un instrument de musique un peu bizarre, qui a une forme d'arc, et qui est utilisé pour les pseudo-combats de la capoeira, donc ce que les esclaves
avaient inventé. Une espèce d'art martial brésilien.
Hein. C'est à la fois danse et combat simulé, en quelque sorte. Donc, alors là, pour ce berimbau, elle a un peu trituré sa guitare.
Oh oui.
Beaucoup même.
Presque torturé.
Oui, torturé, oui. Pour lui donner la sonorité de cet instrument, le berimbau, qui est donc comme un arc. Ça a la forme d'un arc avec une seule corde et sur laquelle on tape. Alors, il y a des résonances. Enfin, c'est un instrument très bizarre. Et donc,
ce qu'elle a fait là, c'est extraordinaire.
Il faut
le faire en public, en temps réel. Là, ce n'est pas de l'enregistrement. Il ne faut pas se rater. Très, très impressionnant. Alors, c'était aussi un clin d'œil à Toulouse, parce que je le rappelle, pour ceux qui connaissent, berimbau, c'est la musique qui sert de toile de fond, je vais dire, à un morceau célèbre, une chanson célèbre, pardon, de Claude Nougaro, Bidonville.
Oui,
voilà,
oui,
on a bien retrouvé les sons, vous savez, donne-moi ta main, camarade. Bon, voilà,
c'était
d'ailleurs, elle ne l'a pas précisé, je ne sais pas si elle s'est rendue compte qu'elle faisait en même temps un clin d'œil à Nougaro la ville qu'il a vue naître, ville où elle se produisait pour la première fois.
Elle a même dit, non seulement elle se produit pour la première fois, mais qu'elle y venait pour la première fois.
Oui.
Donc, il t'a souhaité qu'on la revoie. Hein.
Je pense que c'est très probable.
Je pense que oui, parce qu'elle a eu un grand, grand succès, tel succès qu'elle a donné un bis, du catalan Emilio Pujol, Scottish Madrilenio. Alors, c'est un mélange un peu amusant, hein, entre Scottish et l'Espagne. Mais très bien. Donc, c'était une belle prolongation de ce beau concert, très convivial entre le public et la virtuose et la musicienne. Donc, vraiment très bien. Il faut signaler quand même que le programme de la prochaine saison sera bientôt disponible sur le site de l'association. Hein, c'est ce que nous a indiqué...
Je suis persuadé qu'il y aura encore de très grands musiciens
qui
vont se produire à Toulouse Guitare la saison prochaine. Donc, aucun doute là-dessus. Eh bien, voici un des morceaux extraits du CD Touhou et du programme du concert de vendredi à l'église Saint-Jérôme. Choro numéro 1 d'Heitor Villa-Lobos, joué bien sûr par Gaël Solal. Thank you. Choro numéro 1 d'Heitor Villa-Lobos, joué par Gaël Solal, extrait du CD Touhou, paru en 2020. La guitariste marseillaise a donné vendredi le dernier concert de la saison 21-22 de Toulouse Guitare. Nous allons encore changer d'univers pour conclure cette première partie d'émission en revenant sur les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, sous la direction de Gilles Colliard, donné les 12 et 13 mai à Saint-Pierre-des-Cuisines, entièrement dédié à Anton Dvorak et redonné ces 24 et 25 mai à 20h30 à l'escale de Tournefeuille. Deux bagatelles du grand compositeur tchèque sont interprétées lors de ces concerts. Le clou du programme étant sa fameuse symphonie numéro 9, plus connue sous le nom de Symphonie du Nouveau Monde. Mais attention, il s'agit d'une version arrangée par Gilles Colliard, qui outre ses talents violoniste, est un excellent compositeur et arrangeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa version détonne avec un instrumentarium un peu inattendu, Serge.
Ah, complètement, hein, effectivement. Alors, après les deux bagatelles, donc il a joué alors de manière traditionnelle, hein, avec son orchestre, ses orchestres à cordes, hein, donc comme d'habitude, très très bien. Eh bien, là, il a quand même fait quelques confidences à l'avance, avant d'exécuter la symphonie du Nouveau Monde, puisqu'il a indiqué que sa volonté, c'était d'utiliser les outils techniques d'aujourd'hui pour faire ce qui s'est toujours fait depuis l'origine de la musique, hein, depuis Bach et même avant, et donc d'arranger les œuvres originales pour d'autres instrumentariums. Et en l'occurrence, là, alors c'était un instrumentarium électronique, hein, électrique, électronique, puisque alors les instruments à cordes sont conservés et ils sont joués par les musiciens de l'ensemble. Néanmoins, le quatuor principal est électrifié. Donc il y a deux violons, un alto, un violoncelle, qui ont le renfort d'une amplification sur leurs instruments. Et puis toute la partie instruments avant et percussion, elle est confiée à un synthétiseur, tout simplement. Un synthétiseur comme on en trouve dans des musiques très actuelles. Donc, on quitte un peu le domaine du grand classicisme, en l'occurrence. Alors, évidemment, c'est très particulier. Les sons, il ne s'agit pas, comme il l'a bien indiqué Gilles Colliard, il ne s'agit pas avec le synthétiseur d'imiter les instruments que le synthétiseur remplace, mais de jouer la partie de ces instruments avec suffisamment d'authenticité pour que ça sonne vrai, que ça sonne musical, et ce qui est le cas, hein. Donc, les quatre mouvements de cette symphonie, d'ailleurs, ils ont été joués presque en continu, puisqu'entre dans les espaces entre les mouvements, eh bien, il y a des évocations sonores et même visuelles, puisqu'on a le bruit du vent, on imagine la prairie, il y a des projections.
Oui, le Nouveau Monde, c'est l'Amérique, rappelons-le.
Ah ben oui,
l'Amérique de la fin du 19e siècle, avec les Indiens. Et
oui, absolument. Voilà. Alors, c'est vraiment une étrange sonorité, mais tout à fait convaincante, hein. Et il faut rendre hommage au claviériste, donc celui qui tient le synthétiseur, qui s'appelle Arthur Guillard, et qui possède un vrai sens musical. Et c'est lui qui agit aux commandes de cet instrument que je qualifierais de caméléon, en quelque sorte.
Oui, le terme est juste.
Il remplace les autres instruments sans pour autant les imiter, je le répète. On a eu en particulier, dans le Largo, il y a un solo magnifique du cor anglais, et bien là qui est joué au synthétiseur, évidemment. Et quand ça passe au solo du hautbois, solo joyeux, ça change de timbre, évidemment. Et donc, c'est une impression générale qui fait que l'on réécoute l'œuvre de manière différente. La structure de l'œuvre est conservée, son message musical est expressif également, et c'est simplement une particularité sonore qui caractérise cette nouvelle interprétation. Donc, c'est vraiment une belle expérience qui peut-être pourrait se prolonger, évidemment.
C'est probable, je ne pense pas qu'il ait fait ça pour un one shot, comme on dit aujourd'hui. Non. Et apparemment, le public a bien réagi.
A réagi, c'était des hurrahs à la fin. Hein. Vraiment, ça a eu un succès fou. Et il a quand même précisé que ça lui a mis 9 mois.
Oui, j'imagine qu'il n'a pas pondu ça, entre guillemets, sur un coin de table en quelques heures.
Non. Ça lui a donné du travail et ça lui a pris du temps. Mais ça valait la peine et donc, bravo, hein, on attend la prochaine expérience.
J'ai la chance de pouvoir proposer à nos auditeurs un extrait de cette symphonie du Nouveau Monde de Dvorak arrangée par Gilles Colliard pour cordes, cordes électriques, percussions et piano électrique. On écoute le célèbre quatrième et dernier mouvement, Allegro con fuoco. Le quatrième mouvement Allegro con fuoco de la symphonie numéro 9 dite du Nouveau Monde d'Anton Dvorak dans la version pour cordes, cordes électriques, percussions et piano électrique arrangée par Gilles Colliard, interprété par les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Toulouse sous la direction du même Gilles Colliard. Ce programme Dvorak est repris ces 24 et 25 mai à 20h30 à l'escale de Tournefeuille. Notez que les concerts de l'Orchestre de Chambre au mois de juin seront dédiés à une œuvre du compositeur toulousain Thierry Huillet, un très joli conte musical inspiré du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Fin de cette longue et passionnante première partie d'émission, une courte virgule musicale et l'on se retrouve dans quelques secondes en compagnie de Serge Chosy pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et dans l'agenda de la semaine à venir, deux concerts donnés par la même formation, l'Orchestre National du Capitole, qui se produit à quelques jours d'intervalle les jeudis 26 et mardi 31 mai à la Halle au Grain. Le premier de ces concerts est dédié à la musique anglaise du XXe siècle et à deux de ses plus brillants serviteurs, les compositeurs Benjamin Britten et Edward Elgar. Le programme a été intitulé « L'énigme anglaise ». Bon, on n'est tout de même pas dans les enquêtes de Sherlock Holmes. C'est plutôt un clin d'œil à l'une des œuvres qui va être jouée ce soir-là,
oui.
Serge.
Oui, oui, exactement. Cette œuvre, sont les variations Enigma de Sir Edward Elgar. Bon, une œuvre qui a déjà été donnée par l'orchestre, hein, qui est une œuvre magnifique. Hein. Une œuvre effectivement énigmatique puisqu'elle comporte 14 variations donc, et qui représente des portraits énigmatiques justement et donc qui sont représentés uniquement par leurs initiales. Donc on est incité à essayer de deviner,
c'est ça l'énigme,
de qui il s'agit. Voilà, donc c'est ça qu'il donnera. Et en première partie, il s'agit du concerto pour violon de Benjamin Britten avec alors deux interprètes dont le chef qui s'appelle Ryan Bancroft. Il vient de Los Angeles, lui, donc américain. Et il a été révélé au plan international en avril 2018, lorsqu'il a remporté deux prix de la prestigieuse Malco Competition for Young Conductors à Copenhague. Donc, c'est la première fois qu'il vient à Toulouse, et donc on est tout heureux de l'accueillir. Hein, non, il a dirigé aussi en Finlande, beaucoup, et donc c'est lui qui dirigera à la fois l'accompagnement du concerto de Britten et les variations Enigma. Et puis, le soliste de la soirée sera le jeune musicien, également américain, Benjamin Bynum, qui est déjà venu à Toulouse et qui avait d'ailleurs, je m'en souviens très bien, enthousiasmé le public à la Halle aux Grains lors du concert du 14 avril 2017, au cours duquel il avait interprété le magnifique concerto pour violon de Sibelius, qui n'est pas une sinécure à jouer, qui est une œuvre magnifique. Et vraiment, il avait tout à fait impressionné. C'est un jeune musicien qui est né en 1989.
Oui, ils ont à peu près le même âge tous les deux, 32, 33
oui,
ans.
Oui, oui, oui. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, le concerto pour violon de Britten est techniquement très exigeant, hein. C'est poétique, c'est à la fois satirique et légère, comme l'est toujours la musique de Britten. Et ça a été composé dans des circonstances dramatiques, hein, alors que le compositeur, qui était très pacifiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, a décidé de s'exiler aux États-Unis. Donc ça correspond à cet exil de sa part. Donc c'est une œuvre vraiment très profonde et très, très dramatique. Et puis donc, les variations Enigma, dont j'ai dit déjà qu'il s'agissait de ces 14 variations, ce sont des variations très brillantes. Certaines sont sentimentales, on peut dire, d'autres humoristiques, quelques-unes sont cocasses, d'autres très lyriques. Donc c'est une belle galerie de portraits que l'on entendra, réentendra avec grand plaisir à Toulouse.
Oui, vous avez bien fait de préciser réentendra, parce qu'on les a assez souvent entendus à la Halle aux Grains jouée par l'Orchestre du Capitole, ces variations Enigma, il y a encore quelques années, enfin assez récemment. En revanche, le concerto pour violon numéro 1 de Britten, ça c'est beaucoup plus rare. Hein.
Oui, c'est rare. Je crois que ça a déjà été donné, mais il doit y avoir très longtemps.
Et comme vous dites, c'est pas une sinécure à jouer, de même que celui de Sibelius, celui de Britten n'est pas facile.
Pas du tout.
Je propose qu'on en écoute un extrait de ce concerto pour violon numéro 1 de Benjamin Britten, le deuxième mouvement Vivace, interprété ici par la néerlandaise Janine Janssen, accompagnée par l'Orchestre de Paris, dirigé par Paavo Järvi. Le deuxième mouvement Vivace du concerto pour violon numéro 1 de Benjamin Britten, interprété par la violoniste néerlandaise Janine Janssen, accompagnée par l'Orchestre de Paris dirigé par Paavo Järvi. Et puis donc, mardi 31 mai, toujours à 20h, l'Orchestre National du Capitole est de retour à la Halle aux Grains pour un concert qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Il y a une seule œuvre au programme, mais pas n'importe laquelle, la célèbre et colossale messe de Requiem de Giuseppe Verdi. On n'entend pas si souvent que ça en concert. On rappellera que Michel Plasson l'avait enregistré il y a 25 ans, même un peu plus je crois, avec l'Orchestre du Capitole et déjà avec le chœur basque espagnol Orfeón Donostiarra, qu'on retrouve le 31 mai aux côtés de l'orchestre, Serge.
Exactement. Alors ce concert, il faut le rappeler, aurait dû être dirigé par Tugan Sokiev, mais étant donné sa démission...
Il a fallu trouver un remplaçant.
Et voilà, mais c'est un remplaçant de luxe, hein, en l'occurrence, qui n'est jamais venu. C'est, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il viendra.
Oui, ça ne me dit rien non plus. Hein.
C'est Jukka-Pekka Saraste, grand chef finlandais, vraiment très grand chef, qui s'est imposé vraiment dans tous les répertoires.
La grande école de direction d'orchestre finlandaise.
Hein. Ah, ben Jorma Panula.
Elle a produit beaucoup de grands chefs.
Y compris des tout jeunes, d'ailleurs.
Hein. On parlait de Jarvi à l'instant. Là.
Oui, exactement. Donc, et puis, il est né à Heinola, qui est la ville de Sibelius. Hein, donc, c'est un grand chef d'orchestre. Et qui a, comme d'autres, comme Joseph Swensen, avait commencé sa carrière en tant que violoniste avant de devenir chef d'orchestre. Donc, il était récemment le chef d'orchestre le chef de l'orchestre symphonique de la Westdeutsche Rundfunk de Cologne. Et il a reçu de nombreux prix, des doctorats honorifiques, enfin, etc. Donc c'est vraiment une chance d'avoir pu faire venir ce grand chef pour diriger ce Requiem. Et puis donc il y aura, comme vous le savez, il y a le chœur évidemment, Donostia.
On en parle un petit peu de ce chœur parce que quel long compagnonnage avec l'orchestre.
Ah, oui.
C'est 40 ans le compagnonnage quasiment.
Oui.
Hein.
C'est Michel Plasson qui l'avait fait venir pour la première fois.
Et on les a tous les ans.
Ah oui, exactement.
Et c'est un chœur semi-professionnel ou semi-amateur, je ne sais pas comment il faut dire.
Mais vraiment de qualité supérieure.
C'est ça qui est formidable.
Oui.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens dont le métier n'est que de chanter dans ce chœur.
Non, exactement. Mais c'est un chœur très musicien. Hein. Ça n'est pas que des voix, que des belles voix. C'est vraiment un grand chœur et très bien dirigé par José Antonio Sainz Alfaro, qui est celui qui le dirige depuis très longtemps. Peut-être pas au tout début. Non, je crois qu'il a changé.
Il y a 40 ans hein, qu'il y a le compagnonnage avec l'orchestre du Capitole, mais le chœur a dû être créé encore un petit peu avant.
Il y a du turnover dans ces
chœurs. Oui, sans doute.
Exactement. Donc, c'est vraiment, on se réjouit d'entendre de nouveau ce chœur avec notre orchestre et ce grand chef. Alors, il y a un quatuor de chanteurs solistes, évidemment. C'est très important.
Certains qu'on connaît, d'ailleurs. Puisqu'on les a vus non seulement avec l'orchestre en concert, mais aussi à la Hallograin. Pardon, au Théâtre du Capitole. Aude Extremo, Ayram Hernandez.
Oui. Mais à ma connaissance, la soprano américaine, Rachel Willis Sorensen.
Non, je ne crois pas qu'on l'ait entendu. Hein.
Donc la mezzo française, évidemment, Aude Extremo, oui. Le ténor espagnol, Ayram Hernandez aussi. Mais par contre, le baryton basse polonais, je ne sais pas.
Non, je ne crois pas.
Adam
non plus,
Palka.
Je pense que c'est une première pour lui. Hein.
Donc voilà, quatre grands chanteurs pour cette œuvre titanesque en quelque sorte, puisque c'était une œuvre donc que Verdi avait composée en hommage au poète Alessandro Manzoni.
Oui, je pense qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu à la Hallograin, il me semble.
Il n'y a pas
c'est
si
pas facile
longtemps,
à monter non plus.
On l'avait entendu dirigé par Tugan Sokiev il y a quelques années, mais pas très longtemps, 3-4 ans à part là.
L'extrait le plus célèbre du célèbre Requiem de Verdi est le Dies Irae que nous allons écouter maintenant dans cette belle version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole et le chœur Orfeon Donostiara sous la direction de Michel Plasson, c'était en 1996.
Oh,
Le Dies Irae, fameux Dies Irae du Requiem de Giuseppe Verdi dans la version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole et déjà le chœur Orpheum Donostiara sous la direction de Michel Plasson, un CD qui date de 1996. Vous allez pouvoir retrouver les mêmes pour l'interprétation de cette même œuvre, mais dirigée par le chef finlandais Jukka-Pekka Saraste, mardi 31 mai à 20h. À la Halle aux Grains, précédemment au même endroit, jeudi 26 mai et également à 20h, l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Ryan Bancroft, va accompagner le violoniste Benjamin Bailman dans l'exécution du concerto pour violon numéro 1 de Benjamin Britten. Au programme de ce concert également, les variations Enigma d'Edward Elgar. Pour ces deux soirées, les réservations et la billetterie sont en ligne sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Pour les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, les 24 et 25 mai à 20h30 à l'escale de Tournefeuille, réservation et achat des places sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Et enfin, je rappelle qu'il reste des représentations du Barbier de Séville, l'Opéra de Rossini, au Théâtre du Capitole jusqu'au 29 mai. Peu de places sont encore disponibles, mais vous pouvez tenter votre chance. Je signale que la billetterie est en ligne à l'adresse www.theatreducapitole.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy pour son aide précieuse et érudite tout au long de ce numéro et à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de nous rester fidèles et excellente semaine musicale à tous.